Réponse à vos réactions, questions ou suggestions avec l'invité de Capu Charlie.
Les personnes qui souffrent d'anémie SS sont très exposées au VIH-SIDA. En effet, cette maladie les oblige souvent à être transfusées. Pour les protéger contre le VIH-SIDA, il est indispensable que la transfusion sanguine se fasse dans les meilleures conditions. Quelles sont donc les précautions à prendre pour transfuser une personne souffrant d'anémie SS, docteur Didier Caméré?
Je dis, nous allons prendre des précautions qui sont indispensables pour permettre à ces personnes d'avoir une bonne qualité de vie,
oui.
Mais pour permettre à nos auditeurs de bien suivre les sujets du jour et de bien intervenir, nous allons essayer d'abord de dire un mot sur la drépanocytose. Mm. La drépanocytose, que nous connaissons sous le nom d'anémie SS, que la population connaît sous ce nom, on parle aussi d'anémie falciforme, etc. C'est une maladie.
SS
tout court, voilà. Alors, la drépanocytose, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une maladie qui touche le sang. Et le sang, c'est un liquide qui contient des cellules. Il y a des cellules rouges, qu'on appelle des globules rouges. Il y a des globules blancs, il y a des plaquettes. Les globules blancs sont ces cellules-là qui nous défendent contre les microbes. Donc, comprenez maintenant le sang comme un véhicule, un transporteur de troupes, qui fait circuler les cellules dans tout l'organisme et permettre la défense du corps contre les microbes. À part ça, il y a les globules rouges. Les globules rouges ont pour rôle d'oxygéner. Vous avez appris que la vie sans oxygène pour nous les humains est impossible. Mmh. Et donc, c'est là qu'intervient le rôle des globules rouges. Le sang circule dans l'organisme lors de son passage au niveau des poumons. Lorsque vous respirez, ces globules rouges ont une molécule qu'on appelle l'hémoglobine. Elle fixe l'oxygène et se trouve dans l'air ambiant. Et elle les amène, grâce au sang, à tous les niveaux, à toutes les cellules de l'organisme. Et à part ces globules rouges, il y a aussi les plaquettes qui interviennent pour permettre la coagulation. Lorsque vous êtes blessé, on vient faire de colmater les brèches avec les plaquettes. Donc, revenons sur les globules rouges. Nous avons dit que ces globules rouges qui nous permettent de fixer l'oxygène qui se trouve dans l'atmosphère et de permettre à la vie de se tenir entre guillemets.
Oui.
Ces globules rouges ont cette hémoglobine lorsqu'on les fabrique. Vous avez appris qu'on peut fabriquer une voiture et on peut avoir ce qu'on appelle les défauts de fabrication.
Oui.
Vous avez une voiture qui circule avec des tableaux de bord défectueux, vous avez des portes qui s'ouvrent difficilement.
Oui.
On dit là, il y a un défaut de fabrication. Et dans l'organisme, malheureusement, on constate aussi qu'il arrive des défauts de fabrication
au niveau des globules rouges.
Au niveau des globules rouges et plus précisément.
Qui n'a pas suffisamment d'oxygène.
Qui ne joue pas correctement son rôle.
Oui.
Et là, ça touche plus précisément cette molécule qu'on appelle l'hémoglobine. Cette hémoglobine peut être anormale et ne pas jouer correctement son rôle. Voilà un peu un résumé pour permettre aux auditeurs de comprendre un peu c'est quoi la drépanocytose. C'est une maladie qui touche le sang, précisément les globules rouges. Et ces globules rouges, leur hémoglobine étant anormale, ne permet pas de bien jouer son rôle de fixer l'oxygène. Et quelles sont les conséquences de cette anomalie?
Oui.
Et c'est à ce moment qu'on va constater que le sang qui devait circuler partout, avec des globules rouges qui devaient amener de l'oxygène, ces globules rouges seront mal formés et ils vont commencer à se boucher au niveau des vaisseaux. Donc une partie du corps qui devait être approvisionnée en globules rouges avec l'oxygène n'est pas approvisionnée et l'obstruction des vaisseaux empêche les cellules de défense, les autres globules qui sont les globules blancs, de ne pas les jouer leur rôle. Donc, vous allez constater sur les drépanocytaires des infections à répétition. Et à côté de ces problèmes, vous allez aussi remarquer que ces globules rouges deviennent fragiles. Ils sont fragiles et ils se détruisent. La destruction des globules rouges, qu'on appelle souvent l'hémolyse, cette destruction des globules rouges va faire que le sang va être diminué en quantité de globules rouges. Donc, il y aura une nécessité de remplacer ces globules rouges qui sont détruits.
Par la transfusion sanguine.
Par la transfusion sanguine.
Voilà.
Et à côté de tous ces problèmes, des crises douloureuses, on ne va pas entrer dans les détails des complications de l'hépanocytaire.
Oui.
Nous retenons aujourd'hui une seule complication, c'est l'hémolyse, la destruction des globules rouges qui sont mal formés et qui va nécessiter la transfusion.
Alors, c'est ces personnes qui souffrent de SS, chaque fois, ça nécessite une transfusion sanguine. À quelle période, à quelle fréquence, je veux dire?
Et les destructions des globules rouges, c'est fréquent. Et donc, la décision de transfuser, il y a des paramètres biologiques dans des examens de laboratoire qui doivent dire que c'est nécessaire. Il y a aussi des manifestations cliniques qui doivent montrer que cette personne ne supporte pas son anémie et donc on doit transfuser. Et lorsqu'on décide de transfuser, on doit prendre alors le sang chez une autre personne et donner à cette personne qui en a besoin. Et alors là, il faut être sûr que la personne qui veut faire un geste louable, un geste noble de sauver une vie, ne puisse pas par la même occasion donner des microbes. Et là, c'est le VIH.
Tristan Katrimbo nous appelle de Boutembo, au nord Kivu. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati à notre vie.
Oui, Tristan, quelle est votre question?
Oui, ma question est juste à ce que j'aimerais savoir si la personne vivant, après la personne là, qui a fait avec les testes, sinon il peut donner à une autre personne le sang, comme on le fait souvent à l'hôpital.
Vous voulez savoir si la personne qui souffre d'anémie peut aussi donner du sang à quelqu'un d'autre?
Ah. Ok, c'est ça ma préoccupation.
Voilà, docteur Didier.
Oui, une personne de panocytaire ne peut pas donner du sang. Vous comprenez qu'il a lui-même un problème de sang, il a un problème de globules qui sont mal formés, et donc on ne peut pas le conseiller de donner du sang à une autre personne.
Voilà. Alors, quelles sont les précautions à prendre lors de la transfusion sanguine, docteur Didier?
Évidemment, il y a une grande liste de précautions à prendre. D'abord, il faut être sûr que le sang est compatible, donc, c'est-à-dire la personne qui va recevoir le sang n'aura pas de rigide. Et c'est là ce qu'on appelle le système ABO, les groupes sanguins sont guillemets, il y a les résus, etc. Et à part ça, on doit être sûr que ce sang, entre guillemets, est propre, ne contient pas de microbes. On va chercher les bactéries, on va chercher les virus, on va chercher d'autres parasites. Mais ici, ce qui nous intéresse, on doit être sûr que le virus du VIH n'est pas présent. On doit faire un examen à base de tests rapides et être sûr sur place que la personne n'est pas, ce sang n'est pas contaminé. Évidemment, à côté de ces précautions, sur place, il suffit la pose de sang. On doit être sûr que les personnes qui sont en train de donner du sang sont bien éduquées. On les appelle un peu des donneurs fidélisés. Ce sont des gens qui suivent des conseils. On leur dit quand est-ce qu'il faut donner le sang, quand est-ce qu'il ne faut pas donner le sang, et éviter la pratique que nous avons dans notre milieu lorsque j'ai dit est un problème de transfusion. Oui. C'est son oncle qui se pointe en urgence. Non, c'est mon fils, par amour, moi-même je donne le sang.
Je donne le sang.
Non. Là, c'est ce genre de choses, on ne refuse pas, mais on doit être sûr que cet amour ne va pas constituer un problème après.
Voilà, alors si l'oncle s'est présenté de cette façon-là, on ne va pas donner directement, on va recueillir son sang et aller le traiter, disons.
On va prendre.
Vérifier s'il n'y a pas d'autres maladies.
Il y a d'abord un petit entretien que nous avons avec le donneur. Dans les jours qui précèdent, comment vous avez été comporté, est-ce que vous avez eu des contacts à risque qui peuvent vous avoir exposé à la transmission du VIH. Évidemment, le sang qu'on va prélever va subir aussi un examen. Et cet examen, qui s'avère que ce sang est infecté, on le met de côté.
Voilà, donc on le met de côté. Donc la personne ne devrait pas nocitaire, voilà. Donc avant d'être transfusée, est-ce que c'est à elle de prendre toutes ces précautions ou c'est aux prestataires qui sont autour de veiller à cela?
C'est nous, prestataires de soins, dans tous les milieux de soins, nous devons être sûrs parce que les personnes de pharmacitaires, en personne de soins, du coup, les transfusions, les transfusent très souvent. Mmh. Donc ils seront appelés à être transfusés. Et lorsque nous sommes dans une zone de santé, dans un milieu donné, où nous sommes en train de recourir au service des donneurs de sang, il faut être sûr que nous avons des donneurs bien fidélisés, bien éduqués et bien organisés ce service. Ça, c'est le devoir du ministère de la Santé, de nous, acteurs de soins à la base, d'être sûr que la transfusion, c'est une transfusion sécurisée par rapport à tous les marqueurs.
Mais est-ce qu'à travers tout le pays, il y a des appareils qu'il faut pour l'équipement qu'il faut pour vérifier si le sang est en bon état ou pas?
Oh, ça ne demande pas des équipements costauds ni compliqués. Par exemple, pour le VIH, c'est juste un petit examen. Un test à ce qu'on appelle le détermin, c'est un test rapide. Dans moins de 15 minutes, avec une petite bandelette, un peu comme des bandelettes, des tests de grossesse avec l'urine. Et là, avec une petite bandelette, vous savez voir que ce sang est contaminé ou pas. Ce sont des tests très sensibles qui nous permettent de dire que oui, ce sang est contaminé. Si vous dites que ce sang n'est pas contaminé, là, on est très sûr qu'il n'est pas contaminé. Donc, ça ne demande pas un appareil. Donc, c'est juste une petite bandelette. Moi, on a une petite goutte de sang.
C'est un test fiable. Oui. Raoul Bouchiri nous appelle de Mbujimayi au Kassai Oriental. Bonjour.
Bonjour, Alif. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Kati.
Oui, Raoul.
La préoccupation que je pose au médecin et à votre client, c'est celle de savoir quelles sont les garanties qu'on fait la transmission sanguine aussi longtemps qu'on parle des périodes de fenêtre. Quelqu'un qui est séropositif, mais son sang n'a pas encore de virus, il faut revenir après 3 mois. Mais la personne-là a déjà donné le sang pendant cette heure de fenêtre. quelles sont les garanties que vous allez avoir le malade qui va être transfusé?
Merci Raoul, docteur Bouguet.
Oui, la question que pose Raoul est très intéressante. Il a parlé d'un mot, peut-être que les gens n'ont pas bien suivi, c'est la période fenêtre. Oui. Lorsque vous êtes contaminé par le VIH, autour d'une période de 2 à 3 mois, on fait les examens, les tests du VIH, les tests reviennent négatifs alors que vous êtes infecté par le VIH. Par rapport aux tests que nous utilisons usuellement, qu'on appelle les tests rapides,
oui.
On ne sait pas lire la présence du virus dans cette période-là. On dit période fenêtre, les gens l'appellent période muette, période de séroconversion, etc.
Ah, ils voient le virus, hein, se cache.
Donc, on vous voit, vous êtes apparemment en bonne santé, on fait les examens. L'examen est négatif, mais le virus est présent dans l'organisme, c'est-à-dire que votre organisme ne produit pas encore des anticorps anti-VIH. Parce que nous cherchons la présence de ces anticorps anti-VIH pour dire que la personne est infectée. Alors cette période est indispensable à connaître parce que ça nous permet de prendre des décisions. D'où la nécessité d'avoir ce dossier du tempo de donneurs fidélisés. Des donneurs à qui on va dire, si vous êtes dans une période de 2 à 3 mois, vous avez un contact à risque. Et s'il vous plaît, ne donnez pas le sang pendant cette période. Et c'est pourquoi tout don de sang, que ce soit l'oncle qui a décidé de donner le sang, que ce soit le mari qui a décidé de donner du sang à sa femme, il y aura un entretien préalable. Et pendant cet entretien, on essaie de se rassurer, est-ce que cette personne n'a pas eu un contact à risque pendant cette période. Donc c'est ça un peu les précautions que nous prenons, mais l'idéal c'est d'avoir un groupe de donneurs fidélisés, éduqués, qui ont toutes ces informations sur ce qu'on appelle période fenêtre.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, heure de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi de 11h à 12h, et mercredi de 10h, heure de Kinshasa.
Jean Dambos nous appelle d'Écologie au Katanga. Nous parlons de la transmission du VIH-SIDA par voie sanguine. Quelles précautions prendre pour les personnes anémiques? Jean Dambos, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour l'invité. Je voulais tout simplement savoir, il faut être de quel groupe sanguin pour donner du sang à une personne qui souffre de cette maladie qui est la trépanocytose?
Oui, nous avons dit tout à l'heure que lorsqu'on veut donner du sang, lorsqu'on veut transfuser, on veut ce qu'on appelle la compatibilité. Est-ce que la personne qui va recevoir le sang, son corps va accepter le sang qu'on va lui donner? On regarde le groupe sanguin. Et il y a ce qu'on appelle les donneurs universels. Les donneurs universels, un peu les O. Et puis il y a les rhésus, hein, ce sont des molécules ou des antigènes qui sont sur la surface des globules rouges. Alors, un drépanocytaire par rapport au groupe sanguin n'a pas une particularité par rapport à sa situation de drépanocytaire. Il va obéir aux règles de tout le monde. On va voir est-ce que... par rapport à son groupe sanguin, telle personne qui est de tel groupe peut lui donner le sang. Là, il n'y a pas de problème. Mais le fait d'être du groupe O, que vous êtes, on vous dit, vous êtes donneur universel, et que vous pouvez donner votre sang à tout le monde, nous disons, vous pouvez donner votre sang à tout le monde, mais soyez aussi sûr que, par ces gestes-là, vous n'allez pas donner des microbes. Et ces personnes devront, au-delà des groupes sanguins, aller vérifier, faire des examens des microbes. Donc là, il faut différencier deux choses. Il y a la vérification de l'acceptation du groupe sanguin, et puis il y a la vérification de l'absence de microbes dans le sang qui est donné.
Voilà, mais pour donner le sang, on donne le sang seulement quand il y a un besoin ou à chaque instant, bon, chaque fois qu'on en a l'occasion, on passe un pour donner.
Oui, le don de sang, entre guillemets, c'est le don de vie. Maintenant, nous organisons au niveau du pays par le programme de transfusion sanguine, ce qu'on appelle des banques de sang. De sorte qu'on a des donneurs fidélisés, des gens bien éduqués, qui donnent le sang à tout moment, suivant un calendrier évidemment qu'on va leur donner.
Ils en ont beaucoup?
Non, pas parce qu'ils en ont beaucoup, parce qu'ils respectent les critères minimums pour donner le sang et qu'ils ont accepté de faire ce geste-là. Alors, on les met dans ce programme-là d'éducation. Et on leur donne un rendez-vous, un programme espacé de 3 mois, 4 mois. Vous venez donner le sang, on vérifie toujours est-ce que vous êtes dans les conditions de santé à même de donner le sang. Il y a plusieurs critères pour être donneur. Et on va passer à tous ces critères. Et ce sang va être conservé. Et lorsque la structure des soins a besoin de transfusion, oui. On recourt à la banque de sang au lieu de recourir en urgence. Mais les situations d'urgence, vous savez, on ne sait pas les éviter. Oui. À l'est du pays, à gauche, à droite, il y a des conflits armés où on recourt des fois à des transfusions en urgence. On s'est organisé des systèmes de banque de sang et ça, c'est un facteur limitant. Mais on s'est dit, si on a un système de banque de sang bien organisé dans tout le pays, ça nous éviterait, un peu comme on a dit tantôt, là, les périodes fenêtres, savoir cette personne et dans telle période, nous sommes dans une situation d'urgence. Vous comprenez un peu, une personne qui vient donner le sang pour son petit frère, on dit qu'il est compatible, et comme il vient à tout prix donner, il risque de ne pas donner l'information sur les risques qu'il vient de courir il n'y a pas longtemps, ou bien si on lui dit, bon, moi, on a un peu d'argent, on fait le don de sang, les gens vont recourir derrière le besoin financier.
Mais généralement, c'est gratuit. Hein.
C'est gratuit, on dit que c'est un don.
C'est un don.
C'est gratuit, et c'est pourquoi nous encourageons vivement toutes les personnes de bonne volonté qui veulent sauver des vies humaines, des femmes enceintes et des drépanocytaires en particulier, à faire des dons de sang, il y a des systèmes de banque de sang, et c'est une sincère dans tout le pays.
Voilà, patient Kafula nous appelle de Manono, Katanga. Bonjour, patient.
Bonjour, Rémi, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Oui, patient.
Oui, ma préoccupation est la suivante. J'ai bien suivi l'officier. Là, je voudrais savoir, à part l'hémothérapie, ça, de la transfusion sanguine, n'y a-t-il pas une autre méthode pour traiter l'anémie FS?
Merci, Trésor. Amoussa nous appelle, cette fois-ci de Kisangani. Bonjour, Trésor.
Bonjour, bonjour, le terreau de Radio Papi.
Bonjour.
Ouais. Oui, je voulais savoir, j'ai une sœur qui souffre aussi de la FS. Elle a subi beaucoup de transfusions, alors je ne sais pas, peut-être elle a, pendant ce moment-là, elle a eu à contacter le VIH, je ne sais pas, parce qu'à présent, là, elle n'a pas encore retrouvé sa santé initiale. C'est là, maintenant, elle a 25 ans, bon, je ne sais pas. Alors, je voulais avoir beaucoup de transfusions pour vous, docteur. Merci.
Merci beaucoup. Par rapport à la question des patients, est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour faire face à la drépanocytose? Retenons d'abord que la transfusion, c'est juste un traitement symptomatique, c'est-à-dire, c'est un peu comme quand vous faites le paludisme et que vous avez la fièvre, on vous donne un médicament pour diminuer la fièvre, c'est un traitement symptomatique, on fait face au signe. Et là, nous avons quelqu'un qui a perdu ses globules rouges, on vient remplacer les globules rouges. Mais le problème de base demeure. Dans les pays plus avancés, on parle de ce qu'on appelle la greffe de la moelle osseuse. Et ça, ce sont des techniques assez complexes, assez sophistiquées, qui ne sont pas encore très avancées ici chez nos pays. Mais ça existe déjà, c'est très avancé. C'est fait ailleurs. Et donc, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs pratiques de traitement, comme on dit, causal. On recourt, on part, s'attaquer à la cause. Et n'oubliez pas que la drépanocytose, c'est une maladie entre guillemets génétique, c'est transmis de père en fils, et ça se trouve au niveau des gènes, c'est pas une infection, on donnerait un médicament ou un antibiotique ou quelque chose comme ça pour l'éliminer. Et donc, les greffes de la moelle osseuse, ce sont des méthodes assez complexes, mais ça se fait déjà. Donc, il y a d'autres méthodes. Et Trésor a demandé par rapport à sa sœur, qui est drépanocytaire, qui a subi beaucoup de transfusions. Est-ce qu'au cours de ces multiples transfusions, elle aurait été infectée? Alors, le seul moyen d'être sûr, c'est de faire le test VIH et de le refaire peut-être en route 3 mois, 4 mois après. Et grâce à ces tests-là, on peut savoir si elle a été infectée ou pas. Mais dès aujourd'hui, que la famille prenne toutes les dispositions et les structures de soins à sécuriser la transfusion qu'on donne à notre sœur.
Trésor, vous êtes encore en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Oui, est-ce que votre sœur avait subi un test VIH-SIDA?
Bon. On dit qu'il n'y aura pas encore.
Pas encore. Donc, faites comme le docteur a dit, et puis vous serez sûr, hein, vous aurez les résultats, et vous serez sûr par rapport à son état. Jennifer Mangoto nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Oui, Jennifer.
Ma préoccupation est celle-ci. Vous avez un enfant, un bébé qui vient de naître, et il y a une mère contaminée. Malheureusement, l'enfant est de drépanocytaire. Comment pouvons-nous faire pour pouvoir prévenir ces enfants de drépanocytaire avec le VIH-SIDA?
Docteur Didier.
Oui, Jennifer vient de poser une question très importante. Les enfants, par rapport au test VIH d'abord, avant 18 mois, le test rapide ne donne pas des résultats assez fiables. On doit attendre après 18 mois que l'enfant puisse avoir 18 mois pour utiliser le test rapide et avoir un résultat fiable. Mais il y a des méthodes, comme on dit, des méthodes directes qui nous permettent d'être sûr que la personne n'est pas infectée. Et ces méthodes, évidemment, ne sont pas très répandues dans le pays. Et quand l'enfant est infecté, évidemment, l'endroit remonte à toute la cellule familiale. Mais si l'enfant est drépanocytaire et que cet enfant devra probablement bénéficier des transfusions pour compenser la perte des globules rouges qu'il aura subi, alors là, nous prenons toutes les précautions, et nous, la famille, et nous, prestataires de soins, infirmiers, médecins, d'être sûrs que notre enfant ne va pas, en voulant remplacer les globules rouges qu'il a perdus, lui donner par la même occasion un microbe dans le VIH. Il y a d'autres microbes, l'hépatite, ainsi de suite, mais elles sont sûres pour ce qui nous concerne qu'on ne donne pas le VIH. Et pour le vérifier, ça ne demande pas grand-chose, ça ne demande pas des examens sophistiqués, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est juste y penser, est-ce que ce sang qu'on va donner à mon enfant a été testé au VIH et qu'il a été dit négatif.
Découvrez les après-midi de Radio Okapi de lundi à vendredi à partir de 13h. Des recettes, des reportages sur la vie quotidienne, des paroles d'enfants, des rubriques femmes et des maladies zag. Et enfin, un brin de culture, c'est en découverte. Un rendez-vous Radio Okapi pour des après-midi promeneurs. Découverte de lundi à vendredi à partir de 13h, heure de Kinshasa, avec Nico Fidèle.
Voilà, Cohen Gaïs nous appelle de Bounia. Ali Fouri, bonjour.
Bonjour, Lévi Daniel, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi, bienvenue à Bounia.
Alors, Cohen, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ok, j'ai donc deux questions. La première question est celle de savoir comment peut-on s'assurer que le sang est sain et sauf alors que pendant un certain moment, le VIH ne se manifeste pas, mais peut se transmettre? Ça, c'est la première question. Je ne sais pas s'il faut enchaîner ou bien attendre encore d'abord la réponse.
Non, continuez.
Ok. La deuxième question est celle de savoir quel autre alternatif on peut utiliser à part la transfusion sanguine.
Merci, Cohen.
Donc, quel est le médicament efficace?
Ok, docteur.
Merci beaucoup. La question que Cohen a posée tout à l'heure, ça se recoupe avec, ça se ressemble à la même question de la clé de fenêtre. Lorsque j'ai dit une personne vient d'être contaminée et que j'ai dit n'est pas encore sûr qu'il est contaminé, on fait les examens et que les examens sont négatifs, j'ai dit se sent en pleine forme et il est en bonne santé, et j'ai dit est un donneur de sang. Alors j'ai dit pas donner son sang, alors que dans ce sang il y a le virus, mais par rapport à cette sur nous avons appelé période fenêtre, le virus n'a pas pu être détecté, ça c'est un danger. C'est pour ça que nous disons, le donneur de sang, qu'il vienne de manière brusque, il doit d'abord passer un entretien. Et si c'est un donneur fidélisé, ce sont des gens qui sont informés, c'est ce qu'on appelle la période fenêtre, pour éviter ce problème-là, de donner du sang qui est contaminé, mais que la personne est en bonne santé, qui a donné le sang a été testé négatif. Donc ça, sont les précautions à prendre. On ne donne pas le sang de manière automatique sans ce petit entretien. On commence par l'entretien avec le donneur. Et si c'est un donneur fidélisé, comme j'ai dit, qui va l'être demain, je crois, il va bénéficier d'une éducation. Il y a toute une formation qu'on leur donne, des petits modules qu'on leur donne. Et est-ce qu'il y a d'autres méthodes à part la transfusion? À un certain niveau, on peut faire des petites acrobaties, des remplacements, mais lorsque vous avez une perte qui descend au-dessus de 5 g/cent, on doit transfuser, parce que là, vous devez remplacer le globule rouge, et il y a nécessité de donner des globules rouges. Donc là, le remplacement de la transfusion sanguine, pour le moment, c'est encore difficile. C'est un peu comme pour les femmes enceintes, une femme qui a perdu beaucoup de sang. Bon, nous savons pour des raisons culturelles, pour des raisons religieuses, certaines personnes ne recourent pas à la transfusion sanguine. C'est vrai, nous l'acceptons, mais à un certain niveau, on n'a pas le choix. La science ne nous a pas encore permis de donner autre chose lorsque nous sommes en dessous de certains seuils de perte de globules rouges. Donc on doit donner les globules rouges. Alors, les globules rouges, on ne va pas les fabriquer au laboratoire. Jusque là, on prend chez un donneur bénévole. Mais maintenant, soyons sûrs qu'on ne donne pas de microbes par la même occasion.
Alors, donc, si une personne qui vient donner un donneur de sang et dans une période fenêtre et qu'on recueille son sang, qui apparemment est sain, donc on transfuse, ça peut infecter l'autre.
Si la personne vient d'avoir un contact à risque et vous avez l'entretien avec cette personne, vous êtes conscient qu'il a eu un contact à risque, vous lui demandez d'attendre d'être période fenêtre. On fait les tests VIH sur place, mais on lui demande de refaire les tests VIH 3 mois après, pour être sûr qu'après ce contact à risque, il n'a pas été infecté. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les banques de sang, tous les centres de transfusion sanguine, par rapport à la période fenêtre, nous les avons déjà informés que les donneurs, qu'il soit un donneur bénévole, qu'il soit un donneur occasionnel, on doit être sûr qu'il n'est pas dans une période fenêtre. Si la période, après un traitement, vous remarquez que la personne pourrait être dans une période fenêtre, on l'écarte.
Voilà, docteur Didier, vous parlez de là.
je parle lingala.
Alors, tozolo de la lilo, moto bato babela maladie ou babena mingi SS, makila ikitaka mingi, isenga akibazon sabango makila de temps en temps. Sikoyo, neni isengeli kubungisa yango, pouke bazo wakona ya sidate.
Oui, ba ndeko na biso oyo babeli maladie ou babeli maladie SS, toza kosenga ceux qui bati na centre to bazali bengo pe sa makila makila wana toza la sûr que ezali na microbe te ba microbe za ebele ba ya malaria ya hépatite a toza le microbe ya VIH et pour ba sala test ya VIH na makila wana et puis mutu wana ko pesa makila il pas solo wana na munga po munga za na ba question miki miki ya kutuna ye o se ka tuna ba question wana ayidi ke mutu oyo azali na pe asa auto za mo contact a risque ba examen autre sale ko bima négatif. Mais négatif, quand on dit le bâtiment, on a besoin d'un microbe dans la maquilla, pour que l'on ait de la montée, que c'est pas une agence à celle de repérer sa maquilla, mais à celle d'un test de VIH, pour rebondir sur le test, après ce test, c'est un négatif, de la petite maquilla. Et puis, pour repérer sa maquilla, on va modifier la rotanga, pour expliquer, l'on va bien dire, période fenêtre dans la France, et d'aligne, moi, période Oyo, c'est la salle d'examen, pas mon tout, examen d'un négatif, le microbe est en cas de maquilla. Il y a un signe de sa population, tout y est bien.
Mais si vous avez ici, mon toit, là, j'ai un peu de temps malade, dans la bosse, on est en maquilla.
Ceux qui n'ont pas été à l'hôpital, dans le centre de santé, que vous avez dans ma banque de sang, il y a un problème aux alatés. Mais ceux qui ont été annulés, on est placé dans la guerre, les alliés, moi, bitoum des alliés, on est signé que, bah, donneur occasionnel, les alliés, par exemple, le général Azoki, si vous avez dit, bah, bien, il y a dit, on peut sa maquilla, évidemment, on dit, on peut sa maquilla. Après un entretien, qu'on a remis, que vous avez dit, bah, on a dit, bah, bien, dans la couna, après un entretien, on a dit, au moins, alors, ça général, tout le monde, on donc, ce qui montre les alités, moi les hommes n'aiment pas trop bien à mon soussou, ce qui oncle Nayo a été ami manifesté volontaire, mais que le bien à oncle Limbi Sabiso, tout ça n'a mon soussou, et ça dit membre des femmes mon soussou.
Ok, merci à Dr. Didier Caméré, coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le sida pour la ville-province et Kinshasa. Merci, à la prochaine.
Merci, Jédine Kassamala.